Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Favoriser les circuits courts, réduire les intermédiaires, grouper les achats, impliquer les habitants des quartiers prioritaires de Brest, créer un collectif et offrir à tous une nourriture saine et à des prix abordables. C'est la mission que s'est donnée l'association VRAC 29. C'est aussi l'œuvre de Fred, travailleur social, qui, dans le même temps, s'est fabriqué un travail à sa mesure. Il nous raconte l'histoire, le fonctionnement, les aléas et les conditions de réussite de VRAC 29 et de son travail.
Nous, on vient déjà pour la qualité des produits et puis le prix. Le prix qui est intéressant, voilà, et pour rencontrer aussi des gens, le lien social que ça nous apporte.
Oui, bah pour les mêmes raisons, hein, on vient ici toujours avec plaisir.
Moi, je travaille dans la grande distribution, donc je connais les prix, et ici, c'est...
Ah oui, c'est flagrant.
C'est flagrant.
D'accord. Voilà. Et la qualité, vous voyez la différence?
Tout à fait.
Ah oui, oui.
La qualité, oui.
Oui.
Ouais, surtout sur les fruits et légumes, nous on travaille beaucoup les produits bruts.
Et pourquoi être bénévole pour l'association VRAC 29?
Parce que ça a du sens d'être ici, de vendre des produits à prix coûtant ou même à prix encore inférieur au prix coûtant à des gens qui ont besoin de bien se nourrir. Puis c'est gratifiant, c'est une activité tout à fait gratifiante pour moi. Que c'est sympa et puis que voilà, on vient une fois par mois, c'est pas...
Oui, non.
Mais par ailleurs, bon, on peut être aussi au conseil d'administration, enfin on essaye de réfléchir. Mais l'artisan, c'est Fred là-bas.
D'abord de rencontrer des gens, de se sentir utile aussi. C'est une association qui rend service aux gens. Ça fait du bien de faire du bien.
Fred, là j'ai interviewé les gens qui sont venus à la dernière livraison là, à Kelly. Et moi, ça me touche déjà. Bon, toi qui es l'artisan, quand même le premier artisan de VRAC 29, comment tu réagis à ces témoignages à la fois d'adhérents et de bénévoles?
La dernière phrase, elle résume bien. Ça fait du bien de faire du bien. Je trouve que c'est vraiment une belle citation de notre cher ami Bertrand, et notre informaticien chef de l'association.
Oui, qui est très investi, ouais, ouais.
Voilà, investi et compétent surtout, parce qu'on a besoin de toutes les compétences. Et c'est vrai que ça fait du bien de faire du bien, parce que dans ce métier-là, effectivement, le retour qu'on peut avoir des adhérents, des bénévoles, des partenaires, même des financeurs, qui j'espère, trouvent que notre action est réussie, en tout cas, marche bien pour que leur politique soit mise en œuvre, ben, c'est plutôt gratifiant, comme on dit. Il y a aussi ça qui a été dit par Isabelle, qui disait que c'est gratifiant, ça fait du bien de faire du bien. C'est peut-être un peu personnel, mais en tout cas, ouais, on y retrouve un bon rapport et un bon retour personnel, en tout cas.
Bon, là, on n'est pas à la fin de l'histoire, l'histoire continue. Mais là, on va aller ensemble à l'origine. Pas l'origine, y a-t-il une origine? Bon, moi, la question qui m'intéresse, c'est le travail. Dans ton cas particulier, c'est tu t'es fait un travail un peu à ta mesure en cherchant tes propres intérêts, mais aussi une ambition très noble, qui est celle de VRAC 29, donc de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément l'argent de s'acheter de la nourriture bio, etc. etc. Mais au départ, on va partir de loin. Ton premier rapport au travail enfant, as-tu travaillé?
Alors moi, je suis originaire des Monts d'Arrée, Saint-Sauveur exactement. Et à Saint-Sauveur, on commençait à l'époque à travailler très tôt. Je ne sais pas si on a le droit de dire travailler, mais puisque c'était un petit peu dissimulé, cette notion de travail. 14 ans, on avait un plan pour se faire, à l'époque, c'était 50 francs la demi-journée.
Ouais.
50 francs la demi-journée, et c'était dans un musée qui était tenu par Dédé. Dédé était effectivement le gestionnaire, était taxidermiste. Et il avait créé un musée qui s'appelait Arrée Nature, qui n'existe plus d'ailleurs. Et en fait, il avait recréé les quatre saisons des Monts d'Arrée avec des animaux empaillés, mais aussi des animaux en vrai, en chair, en os.
Ah oui.
Puisqu'il y avait un petit parc animalier avec un sanglier, avec un blaireau. Je me souviens qu'on pouvait porter le blaireau. Je ne sais plus le nom du blaireau, mais bon.
C'était une initiative privée?
C'était privé, complètement. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui passaient par chez Dédé. On se filait le plan. On était, du coup, le mercredi après-midi, samedi, et les vacances, on allait faire guide, soi-disant bénévole, mais on était payé sous le manteau, avec donc ces 50 francs, et puis un petit peu de pourboire aussi que pouvaient nous laisser de temps en temps les visiteurs, quoi.
Mais alors, bon, là... 14 ans, 50 francs, en je ne sais pas quelle année, mais c'était quelque chose. En même temps, tu as commencé à sentir les contradictions du capitalisme.
Écoute, je savais effectivement que depuis quelques années, les gens étaient payés 50 francs. Et je crois qu'effectivement, alors peut-être c'était à 15 ans, puisque j'ai commencé à 14 ans, j'ai fait un an et demi. Et on ne faisait pas que ça en plus. Hein, ils nous exploitaient quand même quand il n'y avait pas l'hiver grand monde. Je me souviens de porter des parpaings de 100 kilos pour construire une fosse aux loups. Sans gants, sans rien. C'était assez atroce. Et puis j'ai eu ma première relation avec les revendications syndicales.
Ah oui.
Puisque j'ai osé aller demander à Dédé.
Et t'étais porte-parole de collègues?
Voilà, les collègues aussi trouvaient ça normal qu'on puisse être un petit peu augmenté. Puisque à l'époque, mon frère était payé 50 francs, 3 ans plus tôt. Les potes de mon frère, c'était 4-5 ans, ça n'avait jamais augmenté. Et puis à 15 ans, on sait que le coût de la vie augmente et que du coup l'enrichissement était pour Dédé, le personnel était pour Dédé et pas pour nous. Donc j'ai redemandé à Dédé si on pouvait être augmenté de 10 francs, ce qu'il a refusé parce qu'il avait un sacré caractère, et voilà, en m'engueulant, en disant que j'étais pas reconnaissant de la chance qu'il avait. Je lui ai fait un bras d'honneur et je suis parti sur mon vélo.
D'accord.
Bon. Je ne reviendrai plus. C'était, voilà, c'était peut-être un peu violent, le bras d'honneur, pour un syndicaliste, mais à 15 ans, on n'avait pas les codes de la négociation.
Non, j'imagine que la situation peut-être s'y prêtait, parce que ça partait sur une relation plutôt amicale, et puis au final, il exploitait un peu les enfants qui l'embauchaient.
Exactement. Hein. Tout en disant qu'on était tous bénévoles, bien évidemment, à tous les fils.
Oui. Et... Après, voilà, donc ça, c'est un premier boulot. Si dans les Monts d'Arrée, vous faisiez les patates, les échalotes.
Oui, on avait ça, ça passait aussi après. C'était la logique de pouvoir gagner un petit peu d'argent dans ce milieu qui est agricole. Il y avait en plus des covoiturages avec des habitants là, du village qui partaient sur la côte. Donc on allait ramasser. Moi, c'était les échalotes.
Ah oui, les échalotes, c'est sur la côte, c'est sur les terres maraîchères.
Voilà, moi, j'ai fait un petit peu de patates, mais c'était très, très, très dur. Et puis, on allait plutôt aux échalotes chez les patrons de Saint-Paul-des-Léons, de Santec, Clédère, etc. Travail dur, mais on rigolait bien. On attendait le goûter avec impatience et les petits repas. C'était une bonne expérience, c'était super.
Aller-retour dans la journée. Hein.
Aller-retour dans la journée.
Ouais. Plusieurs, ça peut être bien. Sinon, parce qu'on est à genoux dans un champ.
Il y a eu des journées où j'étais très, très fatigué quand même.
J'imagine.
C'était pas évident, non.
Bon, tout ça, c'est des boulots qu'on fait quand on n'a pas vraiment besoin de travailler, à vrai dire. C'est du pourboire.
C'est ça.
Et à un moment, peut-être au bac déjà. Est-ce que, je ne sais pas si tu as eu ton bac, si tu es à quel choix tu as dû faire, comment était la pression des parents, comment tu voyais l'avenir au moment où on te demandait, bon, que vas-tu faire de ta vie ?
Bon, j'étais pas un grand fanat des études. Je m'arrangeais pour avoir la moyenne, d'être voilà, pas me faire remarquer avoir la moyenne. Oui. Mais ce qui ne fait pas un métier par la suite, la moyenne. Enfin, à un moment, il faut trouver où est sa petite spécificité. On ne peut pas être que moyen partout. Sinon, on aura un métier moyen, peut-être aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais.
Effectivement, j'ai passé un bac STT, un peu par dépit. Je ne savais pas trop
STT.
Quoi faire. STT, alors moi j'appelais ça la section des tarés, des toqués. Mais c'était sciences et techniques tertiaires.
Ah oui, oh, sciences,
c'était
ouais.
Un peu, il y avait beaucoup, enfin, beaucoup prenaient ça un peu par dépit parce qu'on ne pouvait pas faire S, L et ES. Donc il ne fallait pas bien passer un bac. Moi, il y avait le côté quand même communication que j'aimais bien dans cette communication, lien avec les gens. C'était un peu plus concret quand même que dans les études. On organisait des petits événements, c'était en lien avec le commerce un petit peu, mais et l'événementiel un peu, c'était un peu organisé, déjà il y avait un petit peu de ça dans mes
oui,
études.
Oui, oui, ça t'est utile aujourd'hui peut-être.
Exactement.
Et donc là, faut s'orienter.
Il faut s'orienter, alors deux choix s'offrent à moi. Premier choix, un peu contraint par mes parents, qui rêvaient que, notamment ma mère rêvait que je sois fonctionnaire. Pour elle, c'était une fin en soi, puisqu'elle... Oui. Mon père étant instituteur et ma mère travaillant dans les collectivités, dans un lycée aussi, cantinière du village, sur le début de sa carrière, puisqu'elle nous faisait la faire manger à tous les enfants de Saint-Sauveur. Et ensuite, elle est partie dans les lycées et les collèges. Donc voilà, plutôt fonction publique et puis fonctionnaire, pour eux, c'était quelque chose qui était rassurant pour des parents à l'époque et puis des parents qui étaient eux-mêmes fonctionnaires.
Oui, oui,
donc,
oui,
oui. Pour lui faire plaisir... Et pour arrêter cette pression, j'ai passé le concours de la Poste que j'ai moyennement réussi par manque de motivation. Cela dit, ça m'a servi à savoir à peu près toutes les préfectures de France et les numéros de département. Donc ça, c'était plutôt utile, je ne sais pas, mais ça me sert quand je pars en vacances pour les plaques d'immatriculation. Mais sinon j'ai eu un aller-retour à Paris payé par mes parents et pas de concours à la suite, quoi. Et donc, j'ai jamais été facteur et je ne m'en plains pas. Mais voilà, c'est une carrière qui n'aura pas peut-être
d'accord.
Pas été pour moi.
Et donc, alors, les premiers.
Et juste pour préciser, mon frère a été facteur une semaine. Il a pas osé. Il a fait le concours, mais il a pas osé refuser d'aller bosser. Il a fait une semaine dans banlieue parisienne dans le 93. Il a abandonné. Après.
C'est ça. En plus, à l'époque, ouais, les Bretons, ils étaient pris, mais ils se retrouvaient dans les centres de tri. Et puis, en plus, en banlieue parisienne. Ouais.
C'est ça. Voilà.
Et ils revenaient le dimanche au Fesnos. Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est une vie d'immigrés, en fait. OK, donc la Poste, ça n'a pas marché. Tu n'as pas voulu. Donc, quelle direction tu as pris ?
Donc, après, effectivement, suite à ce bac et cet été... Bon, je me suis dit, tiens, la vente, pourquoi pas. Justement, le rapport avec les gens m'intéressait, quelque chose de concret. Donc, je suis parti dans un BTS à Brest, à l'Amiral Renard, qui s'appelait à l'époque un BTS force de vente. C'est beau comme mot.
Ouais.
Comme filière. Donc, j'ai passé 2 ans où, effectivement, il y avait des aspects de ce métier-là que j'aimais bien. Notamment justement le fait que ça soit dans le rapport humain.
Peu importe, oui, parce que, oui, le commerce, c'est forcément
le commerce,
avec des gens.
Voilà, ouais. On est avec des gens, on rencontre beaucoup de gens. On bougeait beaucoup aussi, parce qu'on est mobile. Et puis à 18-20 ans, c'était plutôt pas mal de pouvoir...
C'est les stages.
Voilà, sur des stages, découvrir un petit peu la Bretagne par des stages. Alors même si on est dans sa bagnole, hein, mais ça me faisait plaisir d'aller... démarcher pendant un stage un supermarché à Carnac et passer la journée à Carnac, je trouvais ça rigolo.
Ah oui.
Et donc j'ai eu mon BTS. J'étais même assez doué dans les stages, je dois dire, parce que j'ai été recruté par la suite.
Tu vendais des choses.
Voilà, je vendais. Et puis on avait à l'époque, il y avait un stage obligatoire qu'avec le Ouest France, le journal Ouest France. Et on avait, c'était ce qu'on appelle un rallye West France.
C'était quoi, pour répondre à des questions ?
Non, c'était une semaine de démarchage
de
tous les étudiants. Donc toute la classe se retrouvait sur un territoire. Moi, je me souviens, c'était l'opérette. J'avais démarché tout le bourg de l'opérette et j'avais cartonné. J'avais été le meilleur, j'avais fait une vingtaine d'abonnements.
D'accord.
Et du coup, parce qu'on était encadré par des équipes professionnelles de
West France.
Alors, c'était une filiale de West France qui.
Ah oui, des fois, ils sous-traitent.
Ils sous-traitaient sur la partie commerciale. Et donc, ils ont gardé mes coordonnées et m'ont embauché après, par la suite, en sortant du BTS.
Sur quel poste ?
Commercial, quand je vendais des abonnements et puis des abonnements.
Un commercial pour West France, toujours
partout dans l'Ouest.
Il t'a embauché immédiatement, ah ouais, tu devais être bon.
J'étais pas trop mauvais, a priori. Cela dit, ça a été pour moi un petit peu une cour de récréation pendant 2 ans, puisque j'étais là, du coup, je découvrais vraiment l'autonomie et le travail parce que. On était tout le temps en déplacement, donc c'était...
Sur un rayon de combien
Juste tout l'ouest jusqu'à... On a le plus loin qu'on allait, c'était le Calvados, je crois. On a
eu oui, quand même, ouais,
Calvados,
ouais,
Mayenne. Mais
t'es toujours dans une bagnole, là.
Non, parce qu'on faisait la route le lundi, on dormait à l'hôtel toute la semaine et on revenait le week-end.
Ah quoi. D'accord, et donc t'es allé voir des tas de gens pour leur vendre des abonnements
Ou pas, parce qu'on était, on était une bande de jeunes, j'étais pas le seul, il y avait... Selon les équipes avec lesquelles on tombait, il y avait des gens plus ou moins motivés et d'ailleurs qui n'ont pas forcément continué dans le travail commercial. Et donc, on se retrouvait des fois à ne pas faire grand-chose. On avait un fixe, on était content. Quand le chef appelait, on mettait un coup de colis le lendemain. On lui vendait notre abonnement. Mais c'était pas... Le boulot en lui-même ne me passionnait pas vraiment. C'était plutôt justement l'ambiance que je pouvais y retrouver, etc. Et ensuite, j'ai été... mis à poste sur Quimper, là où je fais ça sérieusement. À un moment, quand même, on n'était pas tout le temps pas sérieux, hein, mais et de toute façon, on n'avait pas le choix parce que quand il y avait.
Quand tu bosses, oui, on te demande des résultats, t'en avais, bon. Et quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as parlé à un moment. Une formation de représentant, c'est ça, non ?
Non.
Et t'as remarqué que les gens étaient en concurrence. Enfin,
alors, c'est là un peu c'est le tournant un petit peu de ma posture professionnelle dans le commerce. Je finis West France, j'en avais un peu marre, hein, j'avais fait le tour, et puis c'était un peu redondant, et voilà, c'était 2 ans et demi à aller en porte-à-porte, alors des anecdotes j'en ai...
Mais il n'y avait pas une promotion possible ?
Il y avait, mais j'avais pas envie, c'était pas ça que je voulais faire. Donc j'avais un peu postulé à droite, à gauche, et puis notamment j'avais été recruté... Une boîte qui était à Brest, qui je crois qu'elle n'existe plus parce que le concept n'existe pas forcément. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des camions qui circulaient, qui se mettaient au rond-point avec de la pub dessus et des déroulants. Ça s'appelait Mobile Affiche. Et donc, j'avais été recruté pour Mobile Affiche, donc démarcher les entreprises pour pouvoir.
D'accord, tu vends des espaces publicitaires.
Voilà, au rond-point de Pénard-Close, etc. etc. Et au fait, comme beaucoup dans beaucoup de d'entreprises dans le commerce, il y a finalement des stages où on se met déjà un petit peu en concurrence les uns les autres pour observer, parce qu'on est observé, on est tout le temps observé hein, dans ces métiers-là. Et effectivement, l'ambiance commence à me peser hein, vraiment. Et je me suis retrouvé le midi, je me souviens, à la Maison de l'Océan. Bon resto, hein, parce que l'avantage du commerce, c'est que...
Oui, ça se passe dans de bons restaurants.
Tu manges bien, les séminaires sont souvent un peu bling-bling. On essaye de bien se traiter, en tout cas, sur l'apparence, en tout cas. Et du coup, on se retrouve à manger autour de notre formateur qui était, qui était en train de se pavaner un petit peu devant tous ces jeunes et puis en train de raconter sa liberté de pouvoir tromper sa femme... On est en déplacement, sa liberté d'avoir du pognon et de belles bagnoles, puis 10 jeunes autour qui buvaient ses paroles.
Et ça t'a pas fait rêver, toi.
Et là, ça m'a pas fait rêver, ça m'a même fait un peu peur, parce que là, je me suis dit, Fred, si c'est ça que tu veux être dans 30 ans, être à sa place là, dans ce restaurant, et puis te faire applaudir par des jeunes, parce que tes valeurs, elles sont pas très, très chouettes, enfin, c'est pas moi, il a ses valeurs, mais... pas les juger, mais moi c'était pas du tout ce que je voulais. Donc,
d'accord.
Je suis parti voir le PDG de à l'époque, et puis je suis rentré dans son bureau en disant que j'arrêtais le stage, enfin la formation. J'ai levé le poing, j'ai dit, moi, j'admire José Bové. Donc là, tout était dit. Et le gars, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas... Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, je sais pas, je viens de décider ça là, à l'instant, là, il y a 10 minutes. Il me dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire du social? Je dis, je sais pas. Mais c'est lui qui m'avait dit à l'époque, tu vas aller dans le social.
Ah, c'est lui, ouais, mais c'est bien, il t'a orienté. Et t'es parti avec rien, ou t'as réussi à faire, je sais pas, une fin de contrat, un truc comme ça?
Non, là, j'avais dû... Je sais plus comment c'est... Non, je sais même plus comment c'était.
Bon,
non, j'avais
du toucher de
chômage.
Le chômage, ouais, moi, ouais, ça veut dire que c'est... Chômage, ouais. Ouais. C'est pas mal, ça veut dire.
Voilà,
que
je touchais le chômage et du coup, là, je me suis effectivement retrouvé.
Parce que ça change d'avoir le chômage, ça te permet de voir venir les choses.
Exactement. Et là, c'était ma première période vraiment de chômage qui a duré à peu près 4-5 mois, je crois. Bon, ça allait, j'étais dans une maison à Landéda en colocation, donc il y avait la mer à côté pour pouvoir aller à la pêche. J'ai jamais pêché pendant toute ma période de chômage, j'ai pas eu un poisson, mais j'ai eu le temps de réfléchir au bord de l'eau. En tout cas, ça c'est sûr.
Et alors, qu'est-ce qui se dessine à ce moment-là, dans cette vacuité
J'ai là, justement, cette petite musique du social m'a un peu trotté dans la tête. J'ai fait une petite expérience dans les camps pour handicapés, parce qu'à Épal...
Ils en cherchaient pas mal.
Ils en cherchaient pas mal. Enfin,
mais c'est pas facile, je trouve.
N'importe qui était pris en
deux secondes. Moi, ce que j'ai failli le faire aussi, ouais. Voilà. Mais c'est pas facile.
Non, c'est pas facile, mais du coup, comme j'étais un peu dégourdi, on me proposait tout de suite d'avoir des responsabilités. Moi, j'en voulais pas parce que je voulais apprendre, justement. Mais il y avait tellement peu de moyens et de personnel qu'on se retrouvait quand même dans des équipes un peu border, quand même, et des projets border, quand même. Là. Voilà, c'était pas... Bon, j'ai fait mes petits camps, et puis ensuite, j'ai été un peu faire quelques expériences au Genêt d'Or en remplacement. Il y avait, à l'époque, on pouvait faire pas mal. Donc, j'étais plutôt parti sur le côté handicap. Et puis il y a une directrice de Genêt d'Or qui m'a mis un peu dans le pif. Et puis, ça n'a pas continué. Ça n'a pas continué.
D'accord.
Et voilà. Voilà. Après, j'étais dans un milieu personnel, là, pour le coup, qui était énormément tourné vers l'animation.
D'accord, ouais.
Voilà.
Et comment on passe alors des handicapés au social?
Du coup, j'avais fait mal de monde qui travaillait dans les centres de loisirs brestois, mon ex-compagne d'ailleurs, qui du coup m'a un peu... Voilà, il y avait un poste qui était créé sur le terrain des gens du voyage, sur le terrain d'accueil des gens du voyage.
Mais là, tu avais déjà des compétences validées par l'État d'éducateur.
Tu n'avais rien,
tu n'avais pas de diplôme spécifique.
Non, j'avais rien.
D'accord.
J'avais rien. Donc, j'ai rencontré effectivement les gens de la MPT du Valir, Alain Carverdo notamment, qui m'a mis qui était directeur à l'époque, et qui m'a mis un petit peu, qui m'a fait confiance, parce que effectivement, l'ancien commercial, c'était pas une évidence que je sois un bon animateur, en tout cas.
Non, mais Alain, je le connais bien. Moi, j'avais fait des cours de clown là, et il juge à ce qu'un individu, pas forcément à ses diplômes.
Donc, ouais. On m'a fait confiance. Donc j'ai commencé en tant qu'animateur en France sur le terrain d'accueil des gens du voyage. Une des, pour moi, des plus riches expériences.
Ah ouais.
J'ai adoré découvrir ce monde et cette culture et ces gens.
Mais de quelle manière
cachés, cachés souvent, et d'ailleurs cachés physiquement, parce qu'un terrain d'accueil, notamment en Carvalho, est caché. Et nous, arriver avec notre singularité dans ce monde pas évident à apprivoiser, entre guillemets, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire.
Et c'était quoi le travail avec les gens du voyage?
Alors au départ, il fallait... c'était un peu du travail de socialisation des enfants, parce que c'était des enfants...
Ah, c'est par rapport aux enfants?
C'était des enfants, ouais.
Ah, pour les amener à l'école, tout ça?
Ben, il y avait peu de scolarisation.
Ah oui.
Les gamins, on les accompagnait dans... Alors à l'époque, il fallait les... Parce qu'il y avait eu un premier projet qui avait un peu capoté. Et depuis 3 ans, il n'y avait plus aucune intervention sociale sur le terrain d'accueil. Il fallait tout remettre en route et faire accepter finalement cette communauté dans les lieux sociaux, culturels, sportifs de la ville d'Aurès. C'est quand même dingue, ils étaient refusés, ils n'avaient plus le droit de rentrer à la piscine parce qu'il y avait eu une baston. C'était vraiment... J'ai vraiment connu... l'exclusion et le racisme, je l'ai vu. Alors, il y a plein de choses à dire sur le comité des gens du voyage, mais en tout cas, cette exclusion...
Mais eux-mêmes, ils se baladent beaucoup, donc ils changent de ville, et voilà. C'est compliqué pour les enfants.
Et oui, pour les enfants, et puis l'accueil, la stigmatisation, etc. Oui. Donc effectivement, on devait accompagner par petits groupes ces enfants-là pour aller à la piscine, pour aller au cinéma, pour aller...
Super, c'est un excellent début, ouais.
Voilà, avec des bons caractères comme il le faut, comme il le... Et c'est marrant. Parce
mais ils ne sont pas forcément. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des enfants qui venaient dans notre école et ils avaient mon âge, 8 ans, et ils jouaient du fric sur les billes, par exemple.
Non, mais voilà.
C'est surprenant, quand même.
Les codes des enfants n'étaient pas les mêmes que celles des beaux quartiers ou même des quartiers populaires.
Même des quartiers populaires.
C'est vraiment quelque chose de très spécifique et un phrasé, un parler, bien évidemment, mais aussi
ouais.
Une culture qui est super. Donc voilà. Donc j'ai travaillé pendant un an et demi là.
Ok. C'est bien. C'est formateur en tout cas, j'imagine.
Complètement.
Et de là, t'as quitté les gens du voyage pour t'occuper là, des enfants de chez nous.
Ouais.
Enfin, des enfants du Valir.
Alors de Kelly Verzan.
Ah, de Kelly, ouais.
Kelly Verzan, puisqu'il y avait, à l'époque, il y avait une association qui s'appelait Loisirs Jeunes, qui embauchait les. J'avais arrêté de dire à l'époque parce que j'ai l'impression que c'est il y a 40 ans, quoi. Donc, je vais
c'était quelle année? C'est 2000, 2002
On était en 2000, ouais. On était en 2000.
Ouais, ouais. Non, mais c'est pas si vieux. Il y avait Internet déjà depuis 6 ans.
Donc Loisirs Jeunes existait. C'était donc une association un peu gérée, enfin, beaucoup gérée par la municipalité brestoise, par les élus brestois, pour mettre à disposition des animateurs jeunesse dans les quartiers.
D'accord.
Dans les maisons de quartier, qui avaient des secteurs jeunesse. Donc, moi, j'avais été embauché par Loisirs Jeunes, mis à disposition de la MPT du Valir, qui intervenait sur Kelly Verzan. Donc, j'étais au pied des tours de Kelly Verzan dans le local associatif qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, mais qui, où tu as été.
Mais je le connais d'avant aussi. Hein,
voilà, où tu as été là faire ses captations.
Oui, mais là, il est bien maintenant. Il est super.
Et du coup, voilà, c'était animateur jeunesse dans ce local-là.
En quelques mots, il fait quoi un animateur jeunesse?
Il accueille.
Il accueille des enfants
accueille
qui sont
des
là.
Des jeunes, plutôt jeunes. Hein, on est sur du public ado. Hein,
mais ils viennent te voir facilement.
Ils viennent, le but c'est ça quand même. Sinon,
oui, le but c'est ça. Ouais, mais ils viennent pas forcément. Ils peuvent se méfier de.
Ouais, mais on est au bas des tours. L'endroit était quand même assez stratégique pour que les jeunes puissent venir. Il y avait un petit groupe de jeunes qu'on connaissait qui fréquentait cette petite structure. Et puis. Et moi, j'ai passé de très, très bons moments, et notamment ces moments où on organise... là-bas, c'était vraiment beaucoup de séjours.
Des
séjours de vacances. Et j'avais un petit groupe d'une dizaine de gamins qui suivaient, et j'étais très content d'avoir fait une progression avec eux dans leurs vacances, parce que j'en revois, là, ce qui est chouette quand tu es animateur, c'est que plus tard, tu vois, tu rencontres, tu recroises tous ces jeunes dans la rue ou autre... Et en fait, on avait fait une progression où le premier séjour, on était parti à Ouessant, puis nous étions partis en Vendée, puis Paris, puis Londres, puis Portugal. Et je trouvais que la progression dans leur ouverture d'esprit, elle était plutôt chouette et réussie, quoi.
Ok, c'est beau boulot. Pourquoi le quitter alors, ou pourquoi passer à autre chose?
J'ai pas quitté. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années en passant par Kérourien. Puisqu'il y avait un poste aussi à Kérourien, donc j'avais...
Mais il n'y a pas de difficulté, parce que Kérourien est où le Valir moins, mais il peut y avoir des gamins qui ne sont pas forcément faciles, qui n'ont pas envie, etc.
Je ne dis pas qu'on a fait qu'organiser des séjours avec des gens, des gamins sympas. Non, on a fait aussi des séjours très, très compliqués, où là, on est sur de l'autorité, enfin, il faut faire de l'autorité, il faut voir de la confrontation jusqu'à physique... À des moments, il y a quand même des gamins dans les quartiers qui.
Puis c'est à l'adolescence.
C'est à l'adolescence, déjà. Et effectivement, on peut avoir quand même quelques problématiques de violence, il ne faut pas se cacher. Et nous, animateurs, on fait partie un peu de la famille. Donc il y a aussi cette rébellion, etc., etc. Donc on est en première ligne.
Il faut savoir encaisser ça.
Il faut falloir. C'est pas toujours simple. Effectivement, j'ai eu des moments où j'ai eu un peu peur. Hein,
Oui, c'est possible.
Intégrité physique, morale.
Ouais, un enfant de 16 ans, il peut régler son compte à un adulte.
Il y a eu des gamins qui m'ont poursuivi avec une scie.
C'est vrai.
Ça peut arriver. Ou vraiment des voilà, des grosses engueulades et qui peuvent aller jusqu'à presque la confrontation physique. Il n'y a jamais eu de main levée, mais ça a été, il y a eu des moments chauds parce que j'ai eu quand même des gamins sacrément turbulents et qui avaient beaucoup de caractère. Et puis, alors certains ont réussi à s'en sortir, d'autres un peu moins en tout cas.
Oui, on s'en sort pas à tous les coups, non.
Et d'autres, voilà, ils ont des parcours même à l'heure actuelle qui sont pas enviables.
Mais tout ça te plaît quand même, ouais.
Ouais, moi j'adorais parce que la reconnaissance de justement de ces gamins, on faisait des trucs cool parce que bon, j'avais quand même entre 20 et 30 ans. C'était des sorties, on allait faire du karting, on allait à la plage,
du karting, ouais, avec des... voilà, génial.
Et puis la relation avec les gens, c'était cool, quoi.
Oui, oui.
Alors souvent les jeunes disaient, toi t'es payé à rien foutre.
Il y a des gens qui n'aiment pas ce métier-là, en fait. Ma femme exerce dans ce métier, et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ils ont peur des enfants, ou alors ils jugent les parents, etc. Mmh. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs possibles.
Voilà.
Ok, et puis dans la suite de tout ça, tu vas à Quéréderne, c'est ça, hein ?
C'est ça. Effectivement, l'animation jeunesse, à un moment, alors, elle est fatiguée.
Et je crois que c'est fatigant. Il y a des gens qui, à passer un certain âge, tu peux plus le faire.
Bon, tu vas passer à peut-être un public différent, tout en restant dans ce domaine-là, centres sociaux, que j'aimais bien, que je connaissais, puisque, effectivement, j'ai découvert par les formations, par la suite, par le boulot, par les contacts, tout le milieu de l'éducation populaire et ce que ça engendre derrière.
Et entre-temps, tu as passé les diplômes pour être plus reconnu dans ce domaine ou...
Jusqu'à Kérourien, non. Enfin, j'ai fait les BAFA, le BAFA classique, hein, BAFA BFD. Et puis ensuite, à Quéréderne, j'ai passé quand même un DGEPS.
DGEP.
Diplôme d'éducation de la jeunesse, de l'éducation populaire des sports.
D'accord.
Donc, c'est un diplôme sur 2 ans qui vaut un bac plus 2, bac plus 3, quoi.
D'accord.
Dans l'éducation populaire, quoi. Qui permet d'être coordonné, justement, des projets ou des équipes par la suite, quoi.
Puis ça peut aussi donner plus d'assurance à un salaire en fonction d'un grade, etc.
Exactement. Et du coup, là, effectivement, je pars à Quéréderne, où j'ai passé 11 ans animateur vie locale, en charge des...
Animateur vie locale. Alors là, ta compétence déplace les jeunes. Enfin, va au-delà des jeunes, il y a les familles, il y a tout ça.
C'est ça. C'est les habitants au sens large. C'est-à-dire monter et accompagner des projets d'habitants. Ça passe par des fêtes de quartier, des jardins partagés.
Oui.
Toute l'animation, la culture, les événements culturels, avec le festival Oups de théâtre.
Ah, Oups, ça vient de...
Ah bah c'était dans les quartiers, effectivement.
Je cherche à y jouer, bon.
Voilà.
On en reparlera.
Voilà, mais des choses comme ça, qui sont des moments partagés avec des partenaires, avec des habitants, avec des bénévoles. C'était beaucoup de gestion de bénévoles et du coup adultes.
Donc tu animes des assos, tu suscites des projets, tu les accompagnes.
C'est ça.
Et tu fais l'interface peut-être avec la ville qui peut fournir des budgets, des locaux.
Voilà, les locaux, etc. C'est plutôt on était logés dans les centres sociaux, donc ça se faisait. C'est un conventionnement qui est perpétuel presque.
D'accord.
Non, mais c'était plutôt la partie mobilisation d'habitants que j'avais, et partenaires aussi, pour trouver le partenaire qui va bien en face, les services techniques de la ville.
C'est là qu'on commence à voir apparaître quelqu'un qui pourrait s'occuper de et faire naître une assos comme VRAC 29. Ouais. Quel est ton premier contact avec quelque chose qui pourrait ressembler de près ou de loin à ce qu'est aujourd'hui VRAC 29 ? C'est-à-dire, comment, voilà, VRAC 29 se caractérise d'abord, qu'on vient de loin comme moi, c'est une coopérative d'achat destinée à des habitants de quartiers dits prioritaires, donc, qui logent en général dans des immeubles, logements sociaux, donc avec des allocations. Alors, à Quéréderne, est-ce qu'il y a eu des groupements d'achat déjà, ou des proto-groupements d'achat ?
Alors, on a commencé à parler de groupement d'achat en 2011 ou 2012, avec justement des habitants qui voulaient monter une épicerie solidaire. C'était un collectif de gens au RSA qui s'appelle le CKRSA, collectif de Kéréderne, des reporters solidaires actifs qui faisaient des vidéos.
D'accord. Ça a donné... Tout le monde au RSA et tout le monde solidaire.
Tout le monde solidaire, exactement.
C'était des jeunes alors
j'imagine. Non, même pas. Plutôt des gens de.
Ah ouais, des gens installés dans le RSA.
Entre 30 et 50 balais, quoi.
Ah ouais, tu dois.
Voire plus même. Et en fait, ils ont monté beaucoup de vidéos. Ça a donné lieu aussi à Cartier Libre TV. Là.
Ils ne sont pas dépourvus de moyens, en fait.
Ils étaient très soutenus à l'époque.
De moyens financiers, mais ni de moyens eux-mêmes. C'est-à-dire ils
Justement, c'était de mettre en... L'objectif de cet asso était de mettre en lumière les compétences de gens qui étaient, qui étaient au RSA. Il y en avait un qui faisait de la détection, il y avait de la vidéo, il y avait...
C'est quoi ?
Détection dans les... de métaux. Voilà, il y avait un gars, il était passionné de ça et
il faisait des stages
avec d'autres.
D'accord.
Ils ont acheté un bateau, d'ailleurs.
Carrément.
Ils ont acheté un bateau et ils ont allé faire des sorties bateau.
Oh là là, ouais, parce qu'un bateau, ça coûte cher et c'est.
Ouais, c'est technique aussi. C'était technique. Donc, voilà, c'était... Et donc, pour revenir un petit peu sur l'alimentaire, ils savaient bien un petit peu les problématiques que pouvaient avoir les habitants. Ils ont voulu. Monter cette épicerie solidaire.
Donc, au départ, c'est eux. La première fois que tu as rentré en contact avec ça, c'était eux qui avaient l'idée.
On a commencé à discuter de ça. Et effectivement, il y avait à Kerango un projet d'habitants qui faisait venir.
Donc, Kerango, c'est un autre quartier.
C'est un autre quartier qui faisait venir des choux-fleurs, des patates et des oignons d'un paysan. Et les habitants, ils achetaient au centre social. Et puis, il y a une habitante. Yvette, qui allait faire ses petites courses à Kerango, qui est revenue, qui dit, regardez ce que j'ai acheté à Kerango, c'est génial, au centre social, on peut acheter des trucs. Et c'est pas cher, parce que ça vient direct du producteur, c'est super. Et là, ça fait un peu tilt en se disant, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Et on a fait une réunion, on a cherché un petit peu avec ma collègue qui était Anne, qui était référente de famille sur le quartier. On a réuni des habitants, on a réfléchi un petit peu, on a essayé de trouver des paysans autour. On était un peu en contact à l'époque aussi avec les gens du CIVAM, c'est un collectif de paysans qui sont plutôt militants de la cause rurale pour développer en fait le milieu rural via la paysannerie. On les connaissait un petit peu aussi, puisqu'ils tournaient un petit peu autour de ces questions-là dans le quartier. Et on a réuni des paysans et des habitants dans une grande réunion. C'était du matin.
Donc il a fallu aller chercher les paysans, leur donner envie, trouver les habitants, leur donner envie. Et il y avait du monde ?
Et il y avait un monde fou.
Ah, c'est vrai ?
Et il y avait un monde fou. Il y avait peut-être une trentaine, quarantaine de personnes pour
un
lancement de projet, c'était génial. Il y avait... 3 ou 4 paysans. Et puis on commence à discuter les uns les autres. Les habitants exposent un peu leurs difficultés de pouvoir manger sainement. Les paysans exposent leurs difficultés en tant que paysans, que c'est pas toujours simple non plus.
Non, c'est sûr.
Là, on a deux mondes, et même peut-être même des fois deux précarités qui se rencontraient.
C'était plutôt des maraîchers, les agriculteurs.
Il y avait un gars qui faisait de l'échalote à Trésilidé. Il y avait un maraîcher, il devait y avoir un mec qui faisait du fromage aussi, qui était plutôt du CIVAM.
D'accord, donc il transformait ses produits en plus.
Voilà, et du coup, discussion se fait. Et puis il y a une phrase que je garde et que je cite toujours sur la genèse de ces projets-là. Donc le paysan exposait qu'il avait des soucis, qu'il avait besoin de nouveaux marchés, et que ça c'était finalement un nouveau marché d'aller travailler dans les quartiers prioritaires qu'il n'aurait jamais eu si des initiatives comme celle qui était en train de naître arrivaient. Et il y a Gilles qui sort, qui était du CKRSA justement. Qui était au CKRSA, qui était président du CKRSA.
Président.
Président, c'était le boss. Et qui dit, mais franchement, si un jour on m'avait dit qu'avec mon RSA, j'allais sauver un agriculteur, j'aurais essayé. Et j'ai trouvé cette phrase extra.
Ouais, après, il faut des engagements pour l'agriculteur, parce que lui, il ne peut pas.
Oui, mais justement, mais nous, on s'engageait à grouper qu'il ait du volume, pour que ça soit intéressant de venir.
Volume, c'est régularité.
Régulier, volume, Et pour lui, c'était. Et puis en plus, ça donnait du sens à son travail, en fait. C'est-à-dire que l'agriculture.
Oui, en plus, voilà, oui, ça devient autre chose, un peu.
Voilà, ce n'est pas que vendre aux mêmes personnes, au même endroit, tout le temps. Là, il y a effectivement, quand on dit l'agriculture nourrit la France, ça dépend. Il y a une certaine agriculture qui ne nourrit que une certaine population plutôt aisée de la France.
Ouais, ou alors c'est une culture pour l'export. Et
voilà, c'est ça.
Ok, donc on voit là déjà donc des gens qui sont RSA, qui ne travaillent pas, mais qui s'organisent, qui ont de l'initiative. Des agriculteurs qui arrivent, effectivement, il y a déjà une bonne partie des cartes là, qui sont sur la table. Mais il faut comment stabiliser tout ça, le régulariser, l'institutionnaliser d'une certaine manière. Ouais.
C'est ça, après il fallait organiser. L'organiser. Voilà. Là, après, c'est de la logistique, hein, c'est de l'organisation. On avait les gens, on avait l'envie.
Garder l'envie aussi, c'est pas facile.
Et ça, c'est notre boulot d'animateur.
Oui.
De susciter, de garder l'enthousiasme dans un projet.
Ça part vite, hein, la flamme.
Ouais, c'est notre boulot, finalement.
Oui.
Et d'organiser de façon à ce que l'idée de départ d'un habitant puisse être collective et ensuite. Faire naître justement un projet sur le long terme. Et donc on organise ça, on commence en bas des tours à vendre nos petits légumes au départ, et une fois par mois, et ça fonctionne plutôt bien.
Donc là, c'est un rendez-vous mensuel des agriculteurs avec leur nourriture,
c'est ça.
Pas avec leurs produits.
Voilà.
Et les gars du RSA, plus les habitants.
Voilà, bon après, c'est plus ça, c'est devenu plus
ça. C'est devenu collectif, ouais.
Collectif.
Ça, c'est à Quéréderne.
C'était à Quéréderne, mais. Ça se développait du coup dans l'ensemble des quartiers brestois. Kerango, Kerourien d'ailleurs exactement, Quéréderne, puis Pontanezen, puis Pénarcréage.
Ah c'est vrai,
chaque,
ouais.
Chaque quartier avait ce qu'on appelle, puisque ça avait un nom, c'était les cabas, ça existe toujours, c'est les cabas des champs.
Oui, j'ai été voir, ça a essaimé comme on dit.
Voilà, ça a essaimé. Et on a commencé à le faire, ça marchait bien, ça fonctionnait, on était plutôt bon, hein, à Quéréderne, je pense. On avait beaucoup de monde. C'était le plus gros cabas de Brest, et où il y avait vraiment une dynamique d'habitants et des gens motivés, une belle équipe.
Et pour gérer l'argent, ça pose pas des difficultés
C'était assez simple. Hein, on achète aux paysans, on lui paye sa facture, et puis les gens ils payent. On divise, hein, parce que c'était un prix coûtant. C'était du prix coûtant, ça coûtait un petit peu, parce qu'il y a un peu de perte, il y a un peu de machin au centre social, mais c'était vu, quoi, ça allait.
D'accord.
C'était assez simple. Voilà.
Bon, là, on voit déjà, d'une certaine manière, VRAC 29. Le VRAC 29, le supplément, c'est surtout la structure nationale, peut-être.
Alors, elle viendra plus tard, effectivement, puisque... pendant qu'on vendait ces légumes, on n'a pas fait que vendre et cuisiner.
Il y avait la cuisine aussi.
Ouais, bah il y a toujours un petit peu forcément.
Donc ça veut dire quoi, des repas collectifs?
Des repas collectifs. On invitait il y avait des bons moments avec des agriculteurs. On allait faire des soupes discutes dans les fermes ou des barbecues discutes dans les fermes, des visiter et puis passer un midi justement avec ces paysans ou des ateliers cuisine pour
passer. Il y avait les moyens dans la cité?
Il n'y a pas besoin de moyens, beaucoup de moyens pour faire un atelier cuisine. Hein.
Non, ouais, il faut deux gaz et
voilà,
des casseroles.
C'était pas, voilà, pour faire à manger pour 10 personnes, c'était pas... Voilà,
d'accord. Ben,
et les centres sociaux ont cette mission-là, donc, et puis c'est financé.
Oui,
non, les moyens, ils sont là.
D'accord, ouais.
Et puis, il n'y a pas beaucoup... Franchement, au départ, sur ces projets-là, il n'y avait pas besoin de beaucoup de moyens, puisque les moyens étaient donnés par les structures. Les animateurs étaient payés... par les structures, c'était dans leur mission, c'est toujours dans leur mission, et donc il y avait juste nous, on avait eu 500 euros.
C'était une activité des.
C'était une activité d'un centre social.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, c'est vrai que nous, on a commencé à réfléchir à ce qu'on faisait et comment effectivement, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette alimentation qu'on distribuait dans les quartiers, et avec le CIVAM que j'ai cité tout à l'heure. On a participé à une action recherche nationale qui était organisée par le CIVAM national avec plein d'acteurs, plusieurs acteurs au niveau du territoire, où on se réunissait dans des endroits pour parler d'accessibilité alimentaire.
Qui se déplace là ? Il y a toi, éducateur, il y a...
Animateur.
Animateur, pardon, ouais.
Animateur. Moi, les habitants.
Ah ouais, ils viennent aussi,
ils
ouais.
Ils viennent, on part, on traverse la France, on va à Pézenas, on va dans...
Ah, c'est vrai ?
Ouais, c'était génial. On a été à Paris, on a été dans la Drôme. On a été...
À combien ? 4-5 ?
Ouais, c'était ça. Ouais, 4-5.
Il y a des relations sympathiques qui peuvent se créer, là.
Bah, c'est super. C'est génial, c'est des bons moments. Donc, on se déplace avec le CIVAM, hein, puisqu'on était le terrain. Finalement, il y avait des terrains d'expérimentation et d'observation pour vérifier l'accessibilité, si vraiment les projets étaient réellement dans l'accessibilité alimentaire. Il y avait le réseau des épiceries solidaires du Rhône, qui représentait 200 épiceries solidaires. C'était une grosse boutique. Il y avait le Palais de la Femme à Paris, qui est une institution qui recueille accueille en tout cas des femmes en grande difficulté, victimes de violences souvent.
Quel rapport il y a avec la nourriture là ?
Et ben justement, ils avaient un projet dans le Palais de la Femme de questionnement de l'alimentation de ces femmes hébergées. Comment on pouvait améliorer leur alimentation et notamment une cuisine collective. Comment penser cette cuisine collective, l'approvisionnement d'une épicerie dans le lieu, etc. Donc tout était quand même en lien avec l'alimentation les personnes jugées en précarité, quoi. Et puis un jour, donc on a rencontré plein de monde, des chercheurs, des habitants.
Oui, des sociologues aussi, voire des économistes ou des anthropologues.
Mais aussi des adhérents, des épiceries solidaires. On a rencontré, on s'est fait des copains.
Donc c'est là que tu as rencontré Boris Tavernier, c'est ça ?
C'est ça, on était du coup effectivement au Palais de la Femme. Et il y a un gars qui rentre et puis qui commence à intervenir sur des groupements d'achat dans les quartiers prioritaires, du bon pour des territoires qui sont un peu oubliés, bio, du local, des habitants. Et puis, je me dis, on est cousins. Je ne savais pas qu'on avait de la famille à Lyon, parce que c'était parti de Lyon. Et lui nous raconte qu'effectivement, il a monté. Et moi, je ne connaissais même pas.
C'est un homme politique aussi. C'est un élu...
C'est devenu, mais à l'époque, ce n'était pas un homme politique.
Ah d'accord, ok.
Non, à l'époque, c'était... Donc lui, il était directeur de VRAC. Et en fait, il y avait... Plusieurs territoires qui étaient partis de Lyon. Il avait commencé son parcours à Lyon, dans les banlieues lyonnaises, Vénissieux.
Si tu développes VRAC, tu peux le faire, V-R-A-C.
Alors VRAC, ça veut dire vers un réseau d'achat en commun.
Voilà, ouais, c'est simple.
Et ça veut dire aussi de l'alimentation en VRAC, comme on peut en trouver.
Oui, c'est un bon nom. Ouais.
Donc il était plutôt doué dans trouver des acronymes. C'était assez simple, mais finalement, les choses simples sont efficaces. Et donc, on part en pause et puis on cause direct, quoi.
Ah ouais ?
Bah oui, on cause et on causait la même langue.
Il avait réalisé quelque chose que vous entrevoyiez, que vous faisiez aussi, mais il avait été un peu plus loin, peut-être.
Voilà, il avait été beaucoup plus loin dans le développement de son activité. Et puis on est resté en contact en se disant, si d'aventure à Brest, il a bien vu qu'on avait, on était déjà dans une dynamique hyper hyper avancée sur ces questions de groupement d'achat, de démocratie alimentaire, sans se connaître, mais qu'il y avait moyen de sûrement travailler ensemble et d'aller plus loin que nos projets de quartier et d'habitants, quoi.
D'autant plus que lui avait une ambition national, c'est-à-dire il...
C'était pas une ambition, c'était qu'il y avait une demande et puis qu'il y avait finalement, il y a eu beaucoup de demandes.
Oui, mais il a fabriqué des outils qui opèrent à l'échelle nationale.
Ah, du coup, ça c'est quand même, oui, comme ça s'est développé, la structuration de VRAC s'est aussi développée en même temps, avec des achats logistiques, des achats groupés, des fournisseurs communs, etc.
Que tout d'un coup, là, on quitte les agriculteurs de la région de Brest, en même temps tout en restant le local, mais si tu veux acheter par exemple de l'huile d'olive, t'en trouveras pas à Guillers.
Non, à Pugastel, là je l'ai goûté, elle est un peu amère.
Il y en a une.
donc je préfère aller l'acheter en Grèce ou en Espagne.
C'est ça, et là la dimension nationale a son intérêt.
Voilà, donc on discute et puis on se quitte chacun et puis on continue. Alors On a continué effectivement cette action recherche qui s'appelait Accessible et qui a donné lieu d'ailleurs à un film qui s'appelle La part des autres.
Ah, c'est vrai? Un film documentaire. La part des autres, oui.
Ouais, qui a beaucoup tourné dans un peu partout en France, hein, de diffusion dans les structures. Même, je crois qu'elle a été diffusée en Afrique même.
Ah oui.
Au Sénégal, il me semble qu'il y a eu des... Et oui, on peut le trouver sur Internet, La part des autres.
D'accord, ok, j'irai voir.
Et donc, c'est un film qui retrace un petit peu ce projet Accessible, où la part belle est faite d'ailleurs au Cabas des Champs de Kéréderne, où on voit les habitants discuter, Mimi, Josie et autres dans leur appartement, avec des scènes très, très touchantes sur la condition humaine des gens des quartiers. Vraiment chouette à voir.
D'accord.
Pas parce qu'on est dedans, mais c'est vraiment. C'est un peu un documentaire ressource pour beaucoup de gens qui parlent de ces questions-là.
Ça, là, on voit poindre un projet plus que logistique, plus que écolo ou quoi, bon, à manger bio, qui devient nettement politique. Là, c'est concret. Les gens ont des intérêts bien sentis, voient des choses arriver, se retrouvent. Et on arrive sur la dimension que je n'ai pas encore citée de VRAC 29, qui est créer du lien, et faire émerger des collectifs dans les quartiers.
C'est ça. Donc, oui, effectivement, créer du lien, c'est l'ADN de nos métiers.
On ne s'en rend pas bien compte. Ouais.
Et le collectif, il ne fonctionnera que s'il y a du lien entre les gens.
Oui, ouais, ça c'est sûr. Et puis il y a l'intérêt objectif à être ensemble.
Et voilà, et puis on sait bien que dans ces quartiers où l'isolement, la précarité, parfois la maladie, on a besoin de sortir, on a besoin de rencontrer, on a besoin de se sentir un peu utile. Et ce lien social, il est primordial dans nos il est au centre, l'occupation dans nos métiers, hein, dans ces boulots-là, quoi.
Là, donc, il y a eu cette étude, il y a eu la rencontre avec Boris Tavernier. Et alors, comment les choses vont se passer des cabas, donc des groupements d'achat avec des agriculteurs du coin, des gens du quartier, à quelque chose qui est beaucoup plus structuré, parce que là, aujourd'hui, vous avez des fournisseurs jusqu'en Grèce, donc, où il y a beaucoup plus de volume aussi.
Alors, ça n'a pas été tout rose, puisque on est en 2000... Le Covid, c'était quelle année déjà?
Covid 2020-2021, ouais, je crois.
2021-2019.
Ah, ça voilà. Se passe à ce moment-là?
Eh bien, ouais. Finalement, un peu avant, on s'appelle avec Boris. Moi, j'étais du coup animateur du Cabas des Champs, mais quand même, j'essayais de mutualiser avec les autres et d'avoir une posture commune sur les groupements d'achat avec les autres collègues des centres sociaux. Et puis je décide de on va sûrement faire venir VRAC, mais je peux pas dire du jour au lendemain je vais monter mon bateau et voilà et super qui c'est qui me suit voilà. Donc on imagine avec Boris de pouvoir faire un petit état des lieux au départ de ces groupements d'achat, mais plus au niveau départemental. Moi, mon idée était quand même d'élever un petit peu que de rester dans notre petite...
Mais c'est difficile de travailler au niveau d'un département, c'est grand.
C'est grand, mais bon, alors je n'avais pas dit qu'on allait travailler là, mais, au niveau du département, mais on allait en tout cas réfléchir avec le conseil départemental, parce qu'ils avaient aussi cette prérogative d'action sociale, avec la Fédé des centres sociaux aussi.
Oui, c'est une mission des départements.
Voilà, avec qui on avait... On travaillait déjà, et donc on essaye d'organiser un forum sur l'achat groupé dans le Finistère.
Petite parenthèse, à ce moment-là, tu travailles pour le centre social de Kéréderne, donc tu as un patron, tout ça. On te soutient, là
Complètement. Ouais. Là, j'ai totalement soutenu, parce que ça allait dans la logique d'une...
Oui, c'est votre mission.
Le projet, quand même, sur le centre social était... quelque chose de très très fort, et puis même qui du coup était un peu une vitrine aussi pour le centre, parce que ça fonctionnait bien, c'était connu, enfin, on avait quand même on avait essaimé aussi des cabas des champs. Il y a des cabas des champs à Toul, parce qu'on avait rencontré des gens à Toul. Il y a un cabas des champs à Toul.
Toul, c'est où?
Toul, c'est du côté de Metz.
D'accord. Okay.
Voilà, on avait été invité pour aller témoigner et aider la chaîne sociale à monter son groupe d'achat. On avait des sollicitations un peu partout. Et puis, voilà, on avait fait un film. Et du coup, on était un peu quand même légitime pour aller organiser ça. Mais donc on aurait été accueillis dans les locaux du conseil départemental à Quimper, mais patatras, le Covid, je sais pas si tout le monde s'en souvient, mais c'était quand même quelque chose. Et du coup on est obligé d'annuler parce qu'on est tombé en plein milieu du Covid.
Alors, comme d'un bon feuilleton, voilà. Le premier numéro de Un bon boulot avec Fred va s'arrêter là. Le Covid, que va-t-il se passer? Donc on retrouvera Fred le mois prochain. Et là, on ira dans le détail du fonctionnement de Vrac 29 et sur son avenir.